Bonjour, pour les 10 ans du réseau SNCF Mixité, le podcast Au cœur de la mixité vous offre les témoignages personnels et singuliers sur la question de l'égalité femmes-hommes. 10 portraits, 10 histoires, 10 récits illustrant la grande variété des approches de la mixité. Engagement, inclusion, solidarité, confiance, audace et pour chacune et chacun bien autre chose encore. Au cœur de la mixité, un podcast de La Belle Voix pour SNCF Mixité. Aujourd'hui, on écoute Agnès, dirigeante de Proximité Circulation, qui s'intéresse au collectif de travail masculin où l'expression de la virilité impacte la relation des hommes entre eux. Elle nous partage ses observations et sa vision des collectifs mixtes à travers son métier. À la réalisation de cet épisode, Aurélie Suroca. Bonne écoute.
Je m'appelle Agnès, dirigeante de proximité dans le métier de la circulation près de Rouen en Normandie. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai travaillé une dizaine d'années côté autorité organisatrice et financeur, donc plutôt côté conseil régional État, avant de rentrer à la SNCF en 2015. J'étais à la direction territoriale sur des aspects vraiment planification, stratégie, réfléchir à quel service on veut à horizon 2030, 2035, quelle infrastructure il faut pour mettre en face, etc. Discuter avec les financeurs sur ces aspects-là. Et j'ai voulu changer de métier, rester chez SNCF Réseau parce que ça me tenait à cœur, aller dans un cœur de métier SNCF. Donc je suis allée rencontrer les deux DET principaux, l'infrapôle, le mainteneur et puis la circulation. Et j'ai choisi le métier de la circulation. Et donc j'ai dû faire un parcours de formation pendant un an, donc en 2019. Ensuite j'ai tenu 6 mois un poste d'aiguillage à Évreux. Ensuite j'ai été assistante DPX, c'est-à-dire adjointe du dirigeant de proximité, pendant un an, et maintenant je suis dirigeante de proximité moi-même, à Sotteville, près de Rouen. Donc j'ai fait un parcours un petit peu accéléré, mais pour pouvoir prendre à bras-le-corps ce métier, puisque au sein de la SNCF, pour encadrer, il faut avoir exercé soi-même les métiers, et ça je trouve que c'est quelque chose de très vertueux, parce que ça permet vraiment d'appréhender les choses complètement différemment. Moi je réfléchis beaucoup par définition, pour le coup j'ai bien trouvé mon métier dans la circulation, puisque on aime bien tout définir, tout prescrire. Et la mixité, pour moi, c'est vraiment... Je m'attache à la définition qui est qu'un collectif mixte, c'est un collectif composé à minima à 40% d'hommes et ou de femmes. En deçà, les femmes et ou les hommes sont soit inexistants, soit minoritaires. Et pour le coup, ça pose des sujets. Je pense que ce seuil qui est défini de façon un peu formelle par certaines organisations, il me semble pertinent, parce que finalement, c'est, je pense, à partir de ces seuils-là qu'on a des fonctionnements qui ne sont plus genrés, qui permettent de profiter de l'individualité de chacun, de la multitude des profils que chacun peut avoir, sans avoir une majorité qui genre les comportements. J'ai toujours été très sensible à cette question de la mixité, puis de l'indépendance, de l'autonomie, du droit à avoir une vie libre, etc. Et je pense que j'ai pu réussir un peu à construire ma pensée, à l'objectiver quand j'étais étudiante et que j'ai eu des cours de sociologie des genres où j'ai pu vraiment prendre conscience du caractère construit des genres. Voilà, ce que c'est qu'un garçon, ce que c'est qu'une fille, comment on doit se comporter. Et que c'est construit dans la jeunesse et que ça se reproduit et ça s'alimente tout au long de la vie. Donc j'ai toujours été attachée à ça. En 2016 ou 17, je suis devenue ambassadrice SNCF Mixité. Surtout sur des aspects défense finalement des droits des femmes. Et puis la promotion de la place des femmes dans l'entreprise. J'étais surtout attachée à ces sujets-là. Et ce qui est presque amusant, c'est que quand je suis arrivée dans le métier de la circulation, j'ai pas pu travailler sur ces aspects de la place de la femme dans l'entreprise, puisque j'étais dans un collectif uniquement masculin. Je ne pouvais pas observer comment se comportaient les hommes avec les femmes, puisque j'étais une femme, mais je n'avais pas l'impression qu'il y avait un comportement particulier avec moi. Mais j'ai surtout pu observer comment se comportait un collectif exclusivement masculin et les hommes entre eux. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée et qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui. Je suis évidemment toujours très intéressée par les questions de discrimination et les injustices que vivent certaines collègues femmes. En tant qu'ambassadrice, il y a beaucoup de collègues qui me racontent des choses incroyablement affreuses et qui sont intolérables. Voilà, donc ça, c'est quand même mon cœur de préoccupation. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, et je trouve qu'il y a un sujet qu'on n'aborde pas, c'est finalement comment se comportent les hommes entre eux et comment les stéréotypes de genre impactent aussi les messieurs. En quoi les messieurs sont un peu des victimes aussi collatérales de ces stéréotypes de genre. Certes, les femmes sont des victimes, mais ça, on peut assumer de le dire, on peut en parler, c'est un sujet politiquement correct, on en parle, et c'est politiquement incorrect de dire l'inverse. Alors que par contre, dire que les messieurs subissent les stéréotypes de genre masculins, ça je trouve que c'est un non-sujet, et je trouve que c'est un sujet à porter dans l'entreprise.
Il
les collectifs majoritairement ou exclusivement masculins font preuve de comportements qu'on pourrait qualifier de virils. Après, je pense qu'il ne faut pas être caricatural non plus, dans le sens où ce n'est pas des hordes de bourrins, voilà, qui sont au quotidien, dans la confrontation, etc. C'est pas ça. On est sur des choses beaucoup plus subtiles. Mais malgré tout, les rapports de force, les relations sont très basés sur la confrontation, elles sont rudes. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre par les uns et par les autres. Les communications sont frontales. Et quand les messieurs relatent les communications qu'ils ont eues, par exemple, un agent circulation relate une confrontation qu'il a eue avec un conducteur ou un mainteneur, il va le relater de façon, je pense, un petit peu romancée. Mais il va dire, bah, vraiment, je me suis pas laissé faire, je peux te dire que je l'ai remis dans son cadre, etc. Il va le relater de façon même, finalement, je vois bien l'expérience, plus virile que la réalité de l'échange. Il y a quand même comme ça une mise en scène de ce que c'est qu'un homme, un vrai, un bonhomme. Sans être non plus caricatural, parce que les agents de circulation, c'est pas la caricature de l'homme viril, ridicule, non. C'est vraiment des gens plus subtils et qui savent très bien se comporter, qui sont des gentlemen à l'occasion. Mais moi, je le vois bien dans les relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles entre hommes sont plus frontales, plus brutes que quand une femme est présente. Dans mon équipe actuelle, j'ai la chance d'avoir 6 femmes sur une vingtaine de personnes. Donc, c'est presque exceptionnel au sein de la circulation. Donc, en contraste avec mon équipe précédente où c'était exclusivement masculin. Et en effet, l'ambiance est plus souple. Évidemment, je ne peux pas faire une relation de cause à effet direct. Il y a sûrement d'autres facteurs qui y jouent. Mais je me demande si c'est pas quand même un facteur qui joue. Des avantages des collectifs mixtes, j'en vois plusieurs, notamment sur les aspects sécurité, puisque notre préoccupation principale en tant qu'agent circulation, c'est bien la sécurité. Et actuellement, l'entreprise travaille beaucoup sur le fait de normer un comportement propice à la sécurité, donc une culture de la sécurité. Parmi les qualités d'un agent circulation qui a des bonnes compétences non techniques, on appelle ça, donc un bon savoir-être, c'est le fait de savoir assumer d'avoir des doutes et de poser une question quand il a des doutes. Et savoir dire quand il a fait une erreur ou quand il a failli faire une erreur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très répandu. Ça s'améliore vraiment, hein. Je pense que de mois en mois ou d'année en année, on voit des progrès là-dessus. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et moi, je pense que quand on est un monsieur, c'est encore plus difficile de l'assumer. Je le constate parfois dans certains échanges. Les collègues ont du mal à juste conclure que peut-être il s'était trompé ou peut-être il ne l'avait pas su. Alors que finalement, ce n'est pas une honte en soi. Nos procédures sont tellement complexes, sont tellement multiformes, on doit s'adapter à des tas de situations. Avoir un doute, c'est tout à fait humain. Et donc, je pense qu'avoir une culture plus mixte et donc moins exclusivement masculine pourrait favoriser donc, des comportements plus sûrs. Et par ailleurs, je pense que ça a aussi un impact en termes de bien-être au travail. Je le vois dans les relations hiérarchiques notamment. Moi, je suis une femme, je suis quasiment la seule dans mon environnement. Et clairement, on est, je pense, plus indulgent avec moi. Pas forcément sur le fond, mais au moins sur la forme. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup dans une culture du tacle. Et certains dirigeants se font tacler par d'autres. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible et qui ne m'arrive jamais. Jamais aucun dirigeant ne me tacle. Ils n'ont pas de problème à me dire quand je fais quelque chose de pas bien, hein. Mais avec les formes. Et moi, je trouve ça très appréciable. Et si j'étais un monsieur, j'apprécierais qu'on me parle aussi avec les formes. Il faut bien distinguer virilité et masculinité. La virilité est plutôt l'attribut des messieurs, donc du masculin. Mais pas uniquement. Parmi mes collègues et mes agents femmes, certaines pourraient être qualifiées de viriles. Elles se font respecter, elles le font savoir. C'est surtout les plus anciennes qui racontent être arrivées à une époque où, pour être acceptées, il fallait montrer du caractère. Et donc, ont eu une expérience, je pense, qu'on a dû donner pour se faire respecter et qui se font respecter aujourd'hui. Mais voilà, elles ne sont pas forcément moins viriles que d'autres collègues, pour le coup, masculins. Voilà, donc, la virilité n'est pas un attribut strictement masculin. C'est plutôt masculin, mais pas que masculin. Et donc, je pense qu'il faut bien distinguer ces concepts-là. Avoir des communications frontales, être brute, être un peu rude, c'est lié à la virilité et non pas à la masculinité. J'ai certains collègues qui sont des vrais agneaux en toutes circonstances et qui ne manifestent pas ou pas majoritairement des comportements virils. Donc pour moi, c'est cette culture qui interpelle du point de vue de la sécurité et du bien-être, c'est bien la culture de la virilité et pas de la masculinité. C'est pas une critique à l'égard des messieurs en général, c'est plutôt une critique à l'égard des collectifs composés majoritairement de messieurs et qui sont propices à l'exercice d'une certaine virilité. À titre d'exemple, hier, un de mes agents, donc moi mes agents ce sont des agents de circulation, me relatait un conflit avec un mainteneur ce lundi. Le ton est monté, ça a posé des problèmes, mais c'était un collègue qui ne pose pas de problème habituellement. Donc j'ai appelé le DPX de l'autre collègue pour lui faire part du fait qu'il y avait eu un conflit et essayer de l'expliquer. Mon autre collègue DPX, donc le DPX mainteneur, me dit « En effet, je te confirme ce conflit, j'étais témoin, j'étais là. » Mais je te promets, ce collègue, certes, il aboie beaucoup, mais il ne mord pas. Et moi, je trouve ça très fort. Certes, on n'est pas censé mordre dans le cadre professionnel, mais on n'est pas censé aboyer non plus. C'est pas un savoir-être. On est censé se comporter entre adultes, tempérés, avoir des relations coopératives. Parmi les compétences non techniques que j'évoquais, donc parmi le savoir-être qu'on prescrit, il y a la coopération. Et donc l'aboiement n'est pas une compétence non technique. Or, finalement, elle est un petit peu excusée. On entend souvent oh, tu sais, faut pas le prendre comme ça, c'est un tel. Mais non, mais un tel, il doit se comporter comme les autres. On n'a pas le droit d'être plus brutal qu'un autre parce qu'on est un tel. C'est le genre de situation que je constate au quotidien. Face à cette situation, j'ai ressenti de l'intérêt parce que ça alimente ma réflexion sur la question. Je ne constate jamais de choses graves. Je suis bien vigilante. Si quelque chose de grave devait arriver au sein de mon équipe ou en interface avec d'autres, j'interviendrai pour recadrer. Là, en l'occurrence, j'ai fait un recadrage assez simple en disant juste que c'était pas correct. Et donc, je pense que le recadrage a été fait de l'autre côté. Mais ça m'intéresse quand même dans le sens où finalement, ça abonde dans le fait que c'est admis aujourd'hui d'avoir des comportements virils, que c'est pas quelque chose qu'on rejette pour la bonne raison que je pense que ce n'est pas conscientisé. Je pense que c'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas, qui font partie d'un héritage culturel. Autant sur les aspects sexistes, je pense qu'il y a eu une transformation phénoménale depuis quelques années. On objective très facilement et tout le monde pourra objectiver un propos sexiste. Un propos viril, c'est bien plus compliqué. Alors pour le coup, je ne fais jamais un recadrage sous l'angle virilité ou des choses comme ça. Je partage juste sur le fait que, certes, il n'a pas mordu, mais qu'il ne doit pas aboyer non plus. Je l'ai plutôt fait sous cet angle-là, sous l'angle des compétences non techniques. Je vais pas dérouler pour le collègue toute ma litanie sur les aspects virilité, etc. Je m'en ouvre parfois à certains collègues que je sens un petit peu mûrs pour parler de la question. Mais sinon, c'est un sujet glissant et j'ai pas le temps au quotidien de m'attarder pour faire une présentation détaillée de tout ça. D'autant que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup d'intuition. J'ai l'impression que beaucoup de mes observations confirment ces intuitions. Mais je ne suis pas non plus une sociologue. Voilà, c'est au stade d'intuition aujourd'hui. C'est pour ça que dans le cadre du réseau SNCF Mixité, on cherche à objectiver les choses en ayant recours à des sociologues, dont c'est le métier, et qui nous apporteront sûrement des choses plus objectives que mon ressenti. Dans le cadre des entretiens que j'ai avec certains de mes agents qui me relatent comme ça des communications viriles avec d'autres intervenants du système ferroviaire, je leur dis que nous devons une certaine posture client déjà en tant qu'agent de circulation et que ce n'est pas conforme aux compétences non techniques souhaitées, à savoir la coopération. Donc ça m'arrive de recadrer sous cette forme-là. Sachant que ce n'est pas toujours mes agents que je constate avoir ces comportements-là. Parfois c'est même la ligne hiérarchique. Et donc c'est vrai que je ne suis pas toujours aussi à l'aise pour recadrer, d'autant que je redis hein, que c'est comme c'est pas quelque chose de partagé, le fait que c'est pas souhaitable ou acceptable, sauf sur cet aspect CNT, compétences non techniques, formalisé et prescrit, et ben je ne suis pas toujours à l'aise pour recadrer. En plus, il faut avoir l'esprit vif pour tout de suite savoir dire quelque chose, et donc c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je recadre facilement les uns et les autres. L'établissement insiste beaucoup sur certaines compétences non techniques, que sont par exemple le fait de ne pas avoir de téléphone portable en poste ou des choses comme ça. Or, pour moi, les compétences non techniques les plus importantes, c'est bien la gestion du doute, la communication, la coopération, mais sur lesquelles le collectif ne travaille pas le plus. Et donc moi, je trouve ça important de les mettre plus en avant. Et le fait que ce soit prescrit, c'est une aide pour moi. J'ai réussi à trouver ma place dans un collectif masculin. Je suis arrivée un petit peu comme un ovni, puisque d'une part, je venais pas du terrain comme tous mes collègues. D'autre part, j'étais une femme. Je pense que j'ai bénéficié d'une certaine indulgence à mon arrivée. Mais malgré tout, je pense que je réussis à me faire reconnaître pour mes compétences. Même si finalement ma présence au fur et à mesure ne modifie pas les relations. Je constate moins cette culture du tacle ou ces relations de pouvoir fortes depuis que je suis arrivée. Évidemment, je ne peux pas faire une relation de cause à effet direct. Il y a sûrement d'autres facteurs qui y jouent. Je pense que la diversité dans le collectif dans lequel je travaille a pu aider en ce sens. En tant qu'ambassadrice SNCF Mixité, ce qui me procure le plus de satisfaction, ce sont les remerciements des collègues quand je les écoute. Parce que finalement, beaucoup de collègues qui vivent des situations difficiles ont besoin d'une oreille pour reconnaître que ce qu'elles vivent, c'est injuste. Et ensuite, initier un parcours pour faire reconnaître ça. Malheureusement, souvent suivi de frustration quand les choses n'évoluent pas positivement. Mais déjà, cette phase de reconnaissance est importante pour les collègues qui changent du registre de la culpabilité au registre « il faut passer, il faut se battre », elle quitte au moins en partie le registre de la culpabilité. Pour les générations futures, ce que je souhaiterais, c'est qu'elles ne soient plus obligées de rentrer dans un cadre genré. se reconnaître homme ou femme. Aujourd'hui, la culture impose de se conformer à certains. Alors d'une part, je pense que ça prive la société en général, notre entreprise en particulier, d'une richesse, parce qu'on se prive chez les messieurs de plein d'aspects qualifiés de féminins, mais qui seraient aussi très intéressants à mettre à profit, et inversement pour les dames. Et puis je pense que ça crée un mal-être chez certains, certaines. Pourquoi est-ce que finalement c'est forcément la première chose par laquelle on se caractérise? Quand quelqu'un me décrit, j'imagine que dans mon collectif, on dit « bah oui, tu sais, c'est la DPX ». La première chose qu'on va dire pour me déterminer, c'est le fait que je suis une femme. On va pas dire d'abord que j'ai telle compétence, on va d'abord caractériser dans la vie tout le temps par monsieur ou madame. Quand on remplit un formulaire administratif, première question, c'est toujours monsieur ou madame. Quand on s'inscrit pour un concert, il faut dire si c'est monsieur ou madame, mais on s'en moque complètement pour aller à un concert qu'on soit monsieur ou madame. Et donc le fait de devoir rentrer forcément dans une des cases monsieur ou madame, je pense que ça prive tout le monde d'une belle richesse et ça crée de la souffrance chez certains. Donc je souhaite pour les générations futures qu'on soit plus souple sur ces questions d'identité et qu'on permette à chacun de s'exprimer librement avec toutes les qualités qu'il a et possiblement ses défauts aussi. Si je devais choisir un mot à dire à SNCF Mixité pour ces 10 ans, ce serait le mot merci, parce que le réseau m'a vraiment beaucoup apporté à titre personnel. J'ai participé aux rencontres de Deauville il y a quelques années. On avait été invité à se poser à soi-même des challenges et à s'écrire un courrier à soi-même que le réseau nous enverrait un an plus tard. Parmi ces challenges, j'avais mis me proposer en tant qu'ambassadrice, changer de métier et j'avais mis, je crois, me créer un compte LinkedIn. Et un an après, quand j'ai reçu mon courrier, j'avais réalisé ces 3 défis. Le réseau et SNCF Mixité, clairement, a été pour moi un facteur d'émancipation pour surmonter mes freins et mes propres inhibitions.
C'était Au cœur de la mixité, un podcast de La Belle Voix, produit avec le soutien de SNCF Mixité. Merci à Agnès pour son témoignage. Retrouvez les épisodes de cette série sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site SNCF Mixité. À bientôt!